Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue au forum du studio Kalangou dans une présentation de Rukaya Top Draman. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Kwartagi FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Poursuivant la série sur la participation politique des femmes au Niger, aujourd'hui le forum du studio Kalangou s'intéresse aux femmes dans la gouvernance locale, défis, expériences et perspectives. Dans les années 90, avec l'avènement du multipartisme au Niger, plusieurs partis politiques ont vu le jour et les femmes, en même temps que les hommes, ont intégré les partis politiques de leur choix. Malgré un engagement visible et un amour affirmé pour leur parti, les femmes ont longtemps joué des rôles en dehors des instances de prise de décision des partis. Elles s'occupent le plus souvent de la mobilisation des électeurs en période de campagne électorale et de l'animation des activités des partis politiques. Avec les formations en leadership et en politique proposées par le ministère en charge de la promotion de la femme et certaines ONG internationales et nationales, les femmes se portent massivement candidates aux premières élections locales du pays en 2004. Elles sont également encouragées par la loi sur le quota adoptée en 2000 pour augmenter la représentativité des femmes fixée désormais à un minimum de 10% dans les instances élues du pays. Pour mieux cerner comment ces femmes ont pu accéder à la gouvernance locale, les défis qu'elles ont dû relever et les perspectives, nous avons invité pour vous ce matin des élus locales et d'anciennes élus locales pour vous confier leur expérience. Il s'agit de Mme Issa Ramot Kounke, ex-conseillère municipale de la commune rurale de Damana. En 2004, elle est du PND Stareya. Mme Hamma Safia, vice-maire de Saï, qu'on va joindre au téléphone, elle est de Lumana. Mme Souley Maria Magambo, conseillère de l'arrondissement communal Niamey 3. En 2011, elle est de Lumana. Et Mme Boubacar Sibitou, ex-conseillère de la commune Niamey 1, elle est du MSD Nasara. Bonjour mesdames et merci d'avoir honoré l'invitation du studio Kalangou. Docteur Fatma Zainou de CARE International, que nous avons rencontré dans le cadre de la préparation de ce forum, nous a dit que les femmes subissaient des violences très sérieuses quand elles s'engagent en politique. C'est ainsi qu'elle a cité une femme dont le mari avait pris 3 épouses après l'élection de la dame à la mairie. Et vous, comment ça s'est passé de votre côté, madame Issa Ramotou?
Vous savez, les femmes ont toujours des problèmes au sein des partis politiques. Mais en réalité, pour mon cas, d'abord mon élection, ça a été vraiment d'un commun accord dans le village, dans plusieurs villages même. Tout le monde s'est entendu. Il faut qu'il y ait des femmes au sein du conseil et ils ont dit que, bon, ils ont choisi Bouli parce que c'est comme ça qu'on m'appelle à la maison. Et pour le parti, ils l'ont choisi également. Et c'est pourquoi je n'ai pas rencontré beaucoup d'obstacles. Mais en réalité, en amont, il y avait un terrain déjà préparé parce que moi, j'ai été la présidente de l'association des femmes de la radio communautaire. Donc à ce titre-là, je partais dans les villages, je discutais avec les gens. Quand il y a des choses, c'est moi qui réponds et tout. Donc ces femmes-là et même les hommes sont habitués à me voir et puis ils ont dit que bon, nous la personne qu'on a identifiée, là voilà. Et c'est comme ça que on m'a lancée pour être candidate au poste de conseil. Et au sein de la mairie, j'ai pas tellement rencontré de problèmes. Mais j'ai vu des femmes pour lesquelles ça a été très difficile. Très difficile pour la simple raison que même si le mari a donné son accord, la famille du mari n'est pas d'accord. Ça, je l'ai vécu. Et il y a aussi les déplacements pour les formations, pour les ateliers et autres. Les jeunes du village disent, mais toi, ta femme là, c'est ta femme ou bien c'est la femme de tout le monde? Donc, il y a tous ces problèmes là qui font que la femme est découragée. Et parfois, ce sont ses propres enfants même qu'on va monter contre sa personne. Pour moi-même, vraiment, j'ai pas rencontré de problème, que ce soit dans mon ménage, que ce soit au sein du parti. Et vraiment, je remercie Dieu et je remercie la bonne compréhension de mes collègues.
Merci à vous. Nous allons revenir avec vous le temps de prendre Madame Hamma Safia, qui est vice-maire de Saï, au téléphone. Allô, vous nous recevez?
Bonjour, ça va, vous allez bien?
Ça va bien. Bonjour, madame. Vous avez suivi ce que Madame Ramot Kounte avait dit. Qu'est-ce que vous avez à ajouter?
Moi, je ne peux que compléter ce que Madame Issa Ramot avait dit. C'est la réalité. Maintenant, nous avons un cri de cœur que nous allons lancer toujours à Dr Fatouma, comme vous l'avez dit, comme elle-même, à travers ce qu'elle a constaté. Je ne peux pas dire que cette terre n'a rien fait. Nous sommes sur les résultats de terre, parce que c'est elle qui nous a poussé à être là où nous sommes, à travers leurs femmes. Parce que moi, je n'ai jamais été femme d'un groupement. Mais c'est à travers les femmes que je suis élue et ça m'a motivé à vraiment donner l'importance qu'il faut à terre internationale. Donc, il faut continuer, il faut persévérer. Malgré qu'il y a eu changement par rapport, si vous regardez 90 à 2011, il y a parfaitement eu des changements. Parce que même si on constate ailleurs qu'il y a régression au niveau des élections des femmes par rapport à 2004, donc beaucoup reste à faire. On les encourage surtout. Surtout nous sommes là, on veut vraiment persévérer, on veut que les femmes aussi persévèrent, emboîtent nos pas. Mais malheureusement, les moyens manquent. Les moyens financiers et moraux surtout. Donc, c'est ce cri-là que je veux compléter parce que celle qui m'a précédé a d'ailleurs tout dit parce que c'est déjà une mère. C'est, je suis donc derrière elle parce que c'est elle qui a commencé. Ils ont pratiquement vu toutes les difficultés. Maintenant, donc, elles ont essayé de balayer certaines difficultés avant qu'on soit sur place. Nous aussi, on a vraiment fait de notre mieux. Nous pensons que d'ici les élections prochaines, vous allez constater le changement.
Merci à vous. Nous allons revenir avec vous dans peu de temps. Et revenons aux élections locales. Madame Sibitou, vous qui avez été choisie par les femmes de votre localité, racontez-nous comment ça s'est passé.
Moi, mon cas est un peu particulier parce que je ne suis pas allée à la politique, c'est la politique qui est venue vers moi. Du fait que ce sont des partisans, femmes d'abord et hommes, qui ont voulu que je dépose ma candidature aux élections locales de 2004. C'est pour dire que je n'avais pas de parti du tout. Elles ont choisi le parti. Et ça s'est passé comment? De par mon éducation, je suis née, j'ai grandi dans une famille polygame. J'ai 24 frères et sœurs, donc la vie associative, je l'ai connu, je l'ai vécu dans ma famille d'abord. Et je ne sais pas faire quelque chose moi seul. Je ne suis active qu'en groupe. Donc j'ai découvert le programme MMD à Torodi alors que je suis partie rendre visite à une de mes sœurs. L'activité m'a plu. Je suis venue en Niamey, j'ai exposé ce que j'ai vu à Torodi à mes voisines. Ensuite, on a cherché à contacter le programme MMD. Il nous a fait comprendre que sa zone d'intervention n'est pas Niamey. Ils interviennent en campagne. Donc le peu que j'ai appris à Torodi, je l'ai mis en œuvre. J'ai formé des groupements MMD que j'ai personnellement encadré pendant 2 ans avant que le programme ne nous intègre. Et ce programme-là, Dieu merci, c'est un des meilleurs programmes de développement à la base parce qu'un pays se développe avec les femmes et les hommes. Et je dirais, au Niger, les femmes sont numériquement un peu plus importantes que les hommes. Et c'est là que se trouve la pauvreté. Tant que ces femmes-là n'ont pas les capacités de participer au développement de leur pays, il n'y aura pas de développement au Niger. Parce que tant que la majorité est en train, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Donc ces femmes-là, je travaille volontairement avec elles pendant 2 ans avant que le programme nous intègre. Et à l'approche des échéances électorales, le programme MMD a fait beaucoup de formations en leadership pour les femmes. J'en ai profité et je remercie le programme. Là, avec les participants de Goodell, j'ai pris l'initiative pour leur dire et venez, on va dupliquer cette formation-là. Donc on a réuni les femmes de Goodell et de Yantala pour leur faire part du contenu de la formation. Ce qui les a poussés à vouloir choisir des candidates. Et c'est ainsi que les femmes de Yantala m'ont choisi pour me présenter aux élections locales de 2004. J'ai dit ok, je vais aller informer mon mari pour prendre son avis. Et là c'était un non. Mon mari me dit écoute, si tu as une communication agressive, tu ne peux pas être membre d'un parti. Parce que là, c'est un jeu de cache-cache. Et là, toi, tu es direct. Donc, tu vas te fatiguer. Pour rien, tu seras rejeté. Je viens, je fais part de l'avis de mon conjoint aux femmes. Elles me disent, non, ce n'est pas ton affaire, laisse-moi faire. Alors, si on constituait un groupe, elles sont venues lui expliquer. Leur désir, il a accepté. Donc, première difficulté surmontée. Je n'ai pas de parti. Hein? Vous avez choisi le parti, vous avez eu l'accord de mon mari et le problème demeure. Moi, je n'ai pas d'argent pour faire la campagne. Et je ne sais pas comment on fait une campagne. Les gens disent, ah, nous, on a l'argent. Et je vous jure que ces femmes-là ont cotisé de l'argent. Individuellement, elles ont rassemblé les sous, des centaines de mille pour mener la campagne, pour financer. Elles ont monté la stratégie de campagne. C'est en ce moment que nous avons commencé, en tout cas, dans ma commune à Intala, le porte-à-porte. Ce sont ces femmes-là qui ont initié ce porte-à-porte. 2h, 3h, 4h du matin, elles sont dans le quartier en train de taper devant les portes pour dire voici notre candidate, il faut la choisir. Mais ça n'a pas été facile. Parce que j'ai trouvé des gens qui ont 15 ans dans le parti et vouloir s'imposer face à ces gens-là qui ont milité depuis des années, ce n'est pas facile. Mais ça a été par la volonté des femmes d'abord qui ont entraîné leurs maris, leurs enfants, leurs soeurs, leurs frères. Et ma candidature sera représentée des centaines de milliers de personnes dans la commune. Le parti n'avait pas autre choix que d'accepter ma candidature. Mais quand même, après un vote préliminaire au sein de la coordination même, c'est allé jusque-là. Voilà ma petite expérience. Donc quand vous avez le soutien populaire, il n'y a rien à faire, vous passez.
Et vous, Madame Souley Maria Magambo, vous avez vécu une aventure semblable à celle de Madame Sibitu, n'est-ce pas? Racontez-nous un peu.
Moi, c'est la population du quartier qui a voulu de moi. Ils ont proposé, et quand ils ont proposé, moi, je faisais déjà de la politique. Je n'ai pas voulu parce que j'ai préparé autre chose chez moi à Zonder, parce que j'ai un petit problème, parce que je suis en même temps de Niamey, de Zonder, et d'ailleurs je suis nigérienne. Je suis nigérienne parce que ma mère a deux côtés, ici vers le fleuve et puis Dosso. Mon père lui a 100% Zandérois et moi je suis Zandéroise, j'ai opté. Et je me disais que comme en 2004 j'ai été et me présenter à Zander comme députée, malheureusement dans la famille il y avait mon oncle qui voulait aussi. Tout bord confondu, on m'a demandé de lui laisser la place de députation. En 2011, je me préparais à aller à Zander cette fois-ci pour la députation, quand Niamey a dit non. Tu vis à Niamey, tu es avec nous, la population a dit non, il faut que tu restes ici. La coordination a insisté et s'est montée à la coordination régionale, au niveau régional. Dit, ah mais, nous-mêmes on voulait de toi, pourquoi tu vas aller à Zander? Donc on dépose. J'ai déposé, je suis passée parce que vraiment, les voix que nous avons ramenées, c'était extraordinaire.
C'est les femmes qui ont insisté.
Il y a beaucoup de gens ont insisté. À Zander, c'est pas affaire de femmes ou d'hommes, c'est affaire de famille. Donc là, j'ai été proposée. Donc je suis élue. Maintenant, une fois élue conseillère de ville au titre de l'arrondissement communal Niamey 3, il y avait l'arrondissement communal Niamey 3 qui voulait des maires. Épaulé par les partenaires techniques et financiers qui voulaient aussi à ce que la loi sur le quota soit respectée, j'ai écrit demande en bonne et due forme pour être maire de l'arrondissement communal de Niamey 3. Quand j'ai déposé, c'était acclamé. Mais je ne sais pas par quel miracle, quelques temps après, il y avait les partages des communes entre les partis politiques. Il faut que notre parti cède une mairie au partenaire principal. Donc, on a cédé la commune 4. Et on ne voulait pas donner la plus grande commune à une femme. On m'a demandé de retirer. Ils ont tout fait, ils ont fait le tour. Tout le monde est venu, y compris les grands leaders. Et moi, je me suis vraiment dit que ce n'est pas la peine. Je sais écrire pour faire ma demande, déposer. Mais je ne sais jamais reculer. J'ai refusé de retirer ma candidature. Quand j'ai refusé de retirer ma candidature, ils se sont entendus entre eux. Ils ont dit, bon, écoutez, elle ne va jamais retirer. Mais sa coordination communale ou de zone peut faire ça. Et c'est la coordination de zone qui a retiré ma candidature. Et je suis fière de ça. D'abord, je n'ai pas retiré de moi-même. Ensuite, celui pour lequel on m'a fait retirer ma candidature, ils se sont plaints des actes qu'il a posés. Finalement, c'est moi qui ne suis pas maire qui suis acclamé. Et de l'autre côté, on m'a retiré la mairie, mais on m'a donné la présidence et de la commission des affaires générales institutionnelles et de coopération au sein du conseil de ville de Niamey.
Et vous, Madame Issa Ramot Kounte, qu'est-ce qui a constitué un obstacle pour vous? Les moyens financiers, les hommes du parti ou bien les militants?
Il y a eu des obstacles peut-être dans ma vie au sein du conseil, mais en réalité, pour le choix, pour la campagne, je n'ai pas eu d'obstacle. C'est rare, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont partis jusqu'à me proposer le poste de maire après les élections. Et mon handicap, c'était qu'il y avait une personne plus âgée, un proche à ma famille qui était intéressée. J'ai dit non, vraiment, moi, je préfère attendre. Mais malheureusement, je n'ai pas accepté. Et les autres, un jeune qui est d'ailleurs devenu le maire, il a dit, tant que ce n'est pas Bouli qui se présente, moi je vais me présenter. Et c'est comme ça que, à la suite du vote, c'est ce jeune-là qui a remporté.
Certaines femmes ont dû batailler pour imposer leur candidature au parti qui faisait disparaître systématiquement leur dossier. Et avez-vous vécu cette situation, Madame Tibito?
Concernant le dépôt des dossiers, c'est un suivi qu'il faut faire. Si vous avez les capacités de suivre votre dossier, on ne peut pas vous le perdre. Mais le facteur défavorable pour les femmes, c'est l'ignorance, l'insuffisance d'instruction. Moi, la difficulté et la faillite que je surmonte, c'est le rejet du parti même. Parce que en 2004, le MNSD était le parti le plus grand du Niger quand même. Et moi, je n'ai même pas un jour dans le parti, voilà, que des militants veulent imposer ma candidature. C'est tout à fait normal qu'il y ait réaction et que les anciens du parti cherchent à rejeter cette personne-là parce que les places sont tout simplement limitées. Comment une nouvelle venue va venir prétendre se présenter aux élections? Mais je le dis encore une fois, le soutien que j'avais de la part des femmes, des hommes et des jeunes a fait que ma candidature a été carrément imposée. On me reproche de parler de cette manière-là, mais bon, que les gens m'excusent, c'est la triste réalité. Ma candidature a été imposée à MNSD. Ceux qui ont accepté d'imposer ma candidature m'ont soutenu jusqu'au bout. Les femmes, à la base, ces femmes qu'on appelle des illettrées, c'est pas parce qu'elles sont illettrées qu'elles ne sont pas intelligentes. J'apprécie beaucoup leur affection parce que c'est elles qui m'ont amené à la politique. Je leur dois quelque chose. Donc voilà la difficulté. Et c'est parti jusqu'à la fin du mandat. Au sein du conseil, jusque dans ma vie privée, le parti, c'est-à-dire les animateurs du parti, ont cherché à me déstabiliser. Ils ont continué jusqu'à la fin.
Vous n'avez pas cédé?
Non, pas encore. Parce que après les élections, il fallait choisir le maire. Et le maire revenait au parti MNSD. Moi, je dis directement les choses, excusez-moi. Étant donné ma position de force, il fallait me négocier. Parce que de toutes les manières, on ne voulait pas de moi comme maire. Mais il n'y avait pas moyen de m'écarter, autrement que par la ruse. Donc, ils m'ont invité à une réunion. Il y avait vraiment des gens que je respecte beaucoup. Ah, Madame Sibitu, on sait que tu as toutes les capacités. On sait que tu as toutes les femmes du quartier derrière toi. On sait que tu as le soutien de ci, de ça. Mais bon, on te demande à cause de Dieu de céder la place de maire à une telle personne. J'ai dit oui, je lui cède la place. Parce que la grosse erreur que j'ai commise à cette réunion-là, c'est que les femmes qui ont imposé ma candidature m'ont toujours conseillé de ne jamais aller à une réunion seule. C'était leur stratégie. Et ce jour-là, comme ça devait arriver, je suis allée seule. Et je ne pouvais que répondre directement à la demande.
L'influence de ces hommes-là était forte. Oui.
Était forte. Voilà comment j'ai assumé pendant le conseil. Parce qu'avec les femmes, j'ai continué à travailler. Les groupements, on les a constitués en une union. De l'union, on a créé une mutuelle d'épargne et de crédit qui est encore opérationnelle. On ne s'est pas arrêté là. On a appuyé les 5 communes de Niamey à créer des fédérations. Matama Sidoubara, on l'a fait ce travail-là de Yantala. C'est notre propre apport. Les partenaires sont venus se joindre à nous par la suite. Mais c'est l'initiative des femmes de Yantala. Nous avons rendu opérationnel, le CIC de Yantala qui a été construit et qui est resté 5 ans fermé. Nous avons fait des démarches, nous avons menacé de marcher sur la commune pour que ce district de santé soit opérationnel.
D'accord, merci. Et Madame Bari Bibata Nyandou nous a raconté qu'elle avait été déçue par le mode de scrutin lors des élections de 2004, que c'était le parti qui avait été élu et non sa propre personne. En effet, en vertu du scrutin de liste ouverte, c'est le parti qui désigne les élus après, selon son bon vouloir. Madame Bari nous a d'ailleurs confié qu'elle avait dû menacer de porter plainte pour avoir gain de cause, de n'être pas remplacée par une autre. Comment ça s'est passé, cette étape délicate pour vous, Madame Issa Ramoth Kounji?
Bon, nous, au sein du parti, il y a eu le choix du candidat. Ça n'a pas beaucoup posé problème. Et pour les femmes, on s'était entendu, en tout cas au sein du parti, comme la commune a 21 conseillers, que peut-être 3 ou 4 femmes allaient être élues. Et c'est comme ça qu'on est parti aux élections. Mais au sein du conseil, on s'est retrouvé 3 femmes sur 21.
Et vous, Madame Soleil Maria Magambo?
Merci, je soutiens à 100% ce que Madame Bari a dit. Et jusqu'à présent, c'est le même système qui continue. En élection, en matière de vote, en tout cas, ce n'est pas l'individu qui est voté. Le bulletin même que vous votez, c'est le bulletin du parti. Donc, si ça continue comme ça, même avec la ruse que les candidats ont eu à faire, et on dit que tel candidat, il a tel ou tel quartier, pour nous, nous sommes de Niamey, c'est clair et net, ce sont les quartiers. Donc, Moi, par exemple, je suis candidate de deux quartiers. Le quartier Bukoji 4 et le quartier Banisumbu 1. Maintenant, celui qui vient, il vote Lumana, il a voté pour moi. Mais si on était deux, trois candidats, vous voyez ce que ça fait? Par la suite, dans cette zone, il faut départager deux ou trois personnes. Et c'est au parti de prendre la personne qu'elle veut. Et c'est à ce genre de problème qu'est confrontée Mme Bari. Ça peut arriver à n'importe qui avec le système qu'on utilise ici au Niger. On vote pour le parti au lieu de voter pour l'individu. Ce qui empêche d'ailleurs à l'individu de se glorifier pour dire que voilà le nombre de voix qu'il a ramené. Et c'est toujours les astuces des hommes dans les partis politiques. On dit que non, c'est le parti qui a été voté, c'est grâce au parti, sinon toi tu as combien de personnes? On sait que tu es populaire, on sait que tu es capable d'engranger des bulletins de vote. C'est pour ça qu'on t'a indiqué comme candidat. Mais malgré tout, quand on vote pour le parti. Quand on compte le bulletin du parti. Ça, c'est un problème. C'est un très grand problème sur lequel vraiment, dans les réaménagements techniques qu'on fait dans le code électoral et autres, tout autre document qui peut servir, à amener les partis politiques à accepter la candidature de l'individu en tant que tel. C'est en ce moment-là qu'on peut se prévaloir. C'est en ce moment qu'on peut savoir que si je suis populaire ou pas, si je peux faire quelque chose pour mon parti ou pas. Et c'est pour ça que les gens se menacent les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, dans le parti, et je suis candidate ou bien j'ai été votée en 2011, bientôt peut-être une autre campagne d'élection. Je suis certaine que et si moi je reviens, j'ai fait quelque chose à la population, le nombre de votants va augmenter. Mais malgré tout, c'est au nom du parti et c'est le parti qui va dire. Mais si on veut aussi m'écarter, on peut m'écarter. Parce qu'on peut dire que non, tous ceux qui ont voté le parti. Ce n'est pas toi qui as été voté. Et pourtant, on a l'habitude de voir les gens voter pour le parti. Et dans ces mêmes quartiers, on n'a jamais eu ce taux d'élection. Mais c'est un tel qui est candidat et grâce à un tel, il y en a même qui ne sont pas du parti qui ont été votés pour un tel. Et ils ont mis le bulletin du parti. Vraiment, et si on peut avoir la spécification claire et nette du candidat, comme on fait au présidentiel, avec pourquoi pas les photos. On met les photos et chacun choisit la personne. C'est une bonne chose, même si les gens ne le veulent pas. Et ils ne le veulent pas parce que ça veut dire qu'un tel, il est là, il est au-devant du parti ou il est dans les partis, les instances du parti, mais il ne peut même pas mobiliser 100 personnes. Alors que l'autre qui est là en bas de l'échelle, lui, il est capable de mobiliser des milliers de personnes. Et ça nuit surtout aux femmes. Parce que Subit l'a dit, toute femme qui vient, elle est capable de venir avec non seulement son fils, mais la femme de son fils ou les femmes de son fils, mais aussi les enfants de son fils. Je vous jure que quand la mère parle, le père, là, qui qu'il soit, il n'a pas beaucoup de poids. Oui, surtout en matière de politique. Moi, je peux amener mes enfants vers où je veux. Mais le père peut venir, venez, on va partir. D'ailleurs, il ne va même pas penser à ça. C'est la mère qui pense toujours à « venez avec moi ». Ou quand elle va avec presque tout le monde dans le bateau.
Voilà, merci beaucoup. Et nous allons prendre Madame Hama Safia qui est au bout du fil. Allô, Madame?
Oui, ça va.
Une fois élue, quelle action avez-vous menée pour la cause des femmes?
Quand j'ai élue, j'ai mené des sensibilisations. J'ai toujours rassemblé les femmes pour leur montrer l'utilité qu'il faut pour être devant une foule. Donc maintenant, à travers moi, comme d'habitude, je vous ai dit, je suis enseignante. Donc, j'ai quand même l'âge de m'exprimer devant les hommes et les femmes. Devant une foule, donc, je n'ai pas les problèmes. Donc, je fais en sorte que maintenant, quand les femmes et les hommes se réunissent, la femme ait le courage de dire ce qu'il veut, de dire ce qu'il pense et de ce qu'il voit. Maintenant, je me suis combattue pour apporter des ONG qui œuvrent dans le cadre de la femme. Avec donc le partenariat que j'avais avant que je ne sois d'abord politicienne. Donc, j'ai utilisé ces moyens pour essayer de créer des opportunités pour l'émergence de la femme au niveau de ma commune.
Et quel obstacle avez-vous rencontré en termes de tâches horaires ou de lieux de rendez-vous parfois imposés par les hommes, par exemple?
Vraiment, comme moi, j'ai dit en premier lieu, j'avais pas de problème parce que j'avais la fille totale de mon mari. Donc ça arrive des fois, c'est lui-même qui me dépose au lieu de réunion. Maintenant, avant de quitter, je lui dis voilà les causes. Mais maintenant, malheureusement, toutes les femmes n'ont pas cette même opportunité pour aller. Mais avec moi, si je dis là, j'ai pas ce problème. Je peux rester avec les hommes à n'importe quelle heure. Et des fois, c'est avec trop de retard qu'on m'informe qu'il y a la réunion. Moi, je suis de la commune, mais je loge, j'ai ma maison à Niamey. Mais je quitte la Niamey pour venir à des réunions malgré le temps d'information.
Merci. Et vous, Madame Sibitou, vous avez mené des actions pour défendre la cause des femmes?
J'ai toujours été avec les femmes. Aujourd'hui encore, je suis avec les femmes. On appelle ça ma base. Mais je dis que moi, je fais du développement à la base parce que je préfère travailler avec ces femmes qui, au Niger, représentent la population la plus vulnérable. Si nous prenons 4 personnes aujourd'hui, 3 des 4 personnes là, si nous prenons 4 pauvres, les 3 sont des femmes. Et leur vulnérabilité, elle est multiforme. Mais celle que nous cherchons à combattre avec leur participation, c'est de relever le pouvoir économique des femmes.
L'autonomisation.
L'autonomisation. Je n'irai pas jusqu'à dire autonomisation, je dis pouvoir économique. Parce que il faut d'abord satisfaire les besoins primaires pour prétendre à l'autonomisation. Il faut que la femme soit capable de satisfaire ses premiers besoins-là. Acheter le savon pour laver son linge, c'est important. Accéder aux soins primaires, c'est important. Acheter une ordonnance de 2000, 3000 francs pour son enfant. Parce que les charges, c'est les femmes qui les supportent. Hein. Je n'ai pas peur de le dire. Ok, d'accord, on est marié, on est dans un ménage. Mais lorsque ça chauffe, le mari, là, lui, ce n'est pas lui qui est allé à la maternité pour faire les enfants. Il te laisse les enfants, que ça soit en ville ou bien en campagne. Toi, la mère, tu restes. Tu es obligé de supporter, d'assumer ces charges-là. Tu vas faire manger tes enfants. C'est des charges importantes. Ton enfant est malade, tu assumes. Quitte à aller voir ton frère ou bien ta mère ou ton père pour qu'ils achètent l'ordonnance. Tout simplement parce que monsieur n'a pas l'argent ou bien monsieur n'est pas là. Tu assumes, toi la mère. Ton enfant est envoyé de l'école, tu vas te débrouiller pour que cet enfant-là ne reste pas oisif. Toi la mère. Donc, amener ces femmes-là à pouvoir mobiliser des ressources financières, de l'argent et satisfaire leurs petits besoins. C'est ça ma préoccupation. Et j'ai travaillé avec les femmes de mon quartier. J'ai travaillé avec les femmes des autres communes. J'ai travaillé avec les femmes de ma commune. J'ai travaillé avec les femmes des 5 communes de Niamey. Je suis allé en mission dans les 8 régions du Niger pour les stimuler à se structurer, à se regrouper en groupement, en union, en fédération, renforcer, mettre leurs forces ensemble. Donc, j'ai apporté ma modeste contribution et j'ai dit remercier le programme MMD de CARE International au Niger qui m'a renforcé, qui a renforcé mes capacités de leadership, qui m'a permis d'avoir confiance en moi, d'avoir l'estime de moi-même.
Et vous, Madame Ramot Kounke, quel obstacle avez-vous rencontré en termes de tâches ou de lieux de rendez-vous imposés souvent par les hommes?
Moi, le problème que j'ai rencontré, c'est que je ne réside pas dans la commune. Donc, il faut chaque fois que je me déplace et à mes frais. Et puis, avec ma voiture. Et la mairie ne reconnaît pas ça. Et avec nos perdièmes, là, vraiment, c'est dérisoire. Donc, ça, c'est le problème de l'argent. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait aux femmes? Et la première des choses, c'est la sensibilisation et la formation. Parce que moi, je suis issu d'une commune qui est proche de Niamey et où les femmes quittent, après les travaux champêtres, leur localité, pour venir à Niamey chercher du boulot. Au départ, ça allait très bien. Mais voyez maintenant, il y a les Béninoises, il y a les Burkinabés, il y a tout le monde. Et on dit que la Nigérienne, elle n'est pas soumise, elle ne travaille pas bien comme bonne, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Donc les femmes qui quittent chez nous pour venir là. Mais en réalité, la plupart chôment. Ça nous a fait tellement mal parce qu'on a été obligés d'organiser un forum avec l'appui d'une ONG de chez nous, sur l'exode rural qui a des conséquences énormes parce que cet exode-là entraîne la déscolarisation des enfants. La mère qui vient, elle vient avec ses enfants. Elle va chercher du travail. Peut-être elle ne va pas le trouver. Mais les enfants-là, ils ne sont pas sur place. Ils ne sont pas dans leur village où l'école est à côté. Et puis quand ces femmes-là viennent, qui les nourrit? Qui s'en occupe? Vous voyez, on a organisé le forum et on a essayé et jusqu'à aujourd'hui, on est en train de chercher comment faire pour fixer ces femmes-là sur leur lieu de résidence qui est au sein de la commune. Mais je ne vous cache rien, nos mœurs là sont devenues pervers parce que on est parti jusqu'à trouver des hommes qui s'asseyent. Ils épousent deux femmes, trois femmes. Ces femmes-là viennent à Niamey, elles travaillent et c'est à elles d'envoyer le riz séché, c'est à elles d'envoyer de l'argent, c'est à elles d'envoyer des pains pour la belle-mère, ainsi de suite. On était complètement sidérés. Et jusqu'aujourd'hui, moi vraiment, quand je pense à ce problème et quand je vois ces femmes-là, je me dis, mais bon sang, comment je peux être utile dans la vie? Voilà le problème qui me préoccupe.
Madame Souleymane Mariam Agambo, en ce qui concerne la distribution du pouvoir au sein du conseil municipal, est-ce qu'un conseiller municipal ou une conseillère a vraiment du pouvoir? Comment s'imposer quand les hommes, notamment les maires, ne sont pas coopératifs?
D'abord pour la distribution des postes, ce sont les partis qui le font. D'où je vous ai dit tout à l'heure qu'en compensation, puisque je n'ai pas eu la mairie de l'arrondissement communal Niamey 3, ils ont décidé, ils ont dit oui, tu peux prendre. On m'a donné et la présidence de la commission des affaires générales, institutionnelles et de coopération CAGIC de la ville de Niamey au sein du conseil. Mais vous savez, le problème, ce n'est même pas là-bas, c'est lors des tenues du conseil. Je prends l'exemple typique de Niamey de 2011 à 2016. Tenez-vous bien, nous sommes seulement 8 femmes sur 45 élus. Les 8 femmes-là, nous provenons de deux partis seulement. Mais ces 8 femmes, nous étions obligées d'enlever notre robe de parti pour défendre la cause des femmes. Parce que tout ce qu'on peut décider lors de l'élaboration du budget, en ce qui concerne les activités qui doivent vraiment toucher les femmes, on est obligé, vu notre nombre inférieur au nombre d'hommes, de se dire que, ah bon, écoutez, hein, les hommes n'aiment pas de bruit. Quel que soit Alpha, si tu lèves la voix un peu au-dessus là, l'homme s'éteint. Et nous avons utilisé cette stratégie-là. Nous sommes 8. Quand on vient, on s'assoit, nous avons l'ordre du jour avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ça là, ou qu'est-ce qu'on peut inscrire en plus qui peut ramener quelque chose pour les femmes? Donc on décide, après avoir décidé maintenant, venu au conseil, et quand on vient maintenant, nous voulons ceci, nous voulons cela. Quand moi j'ai dit, je m'étais, je m'assois. Les autres se débattent pour que ce que j'ai ramené là, il faut que ça soit inscrit à l'ordre du jour. Il faut que ce qui a été écrit et qui n'est pas bon pour les femmes là, il faut qu'on enlève ça. Donc, la stratégie d'oublier un certain temps sa couleur aux femmes-là, moi, je pense que c'est une bonne stratégie si on peut l'utiliser en dehors du conseil. Que les femmes, après les élections, oublient leur robe de parti politique. Et elles se disent que je suis femme, je dois aider la femme. Et moi, je pense que si toutes les femmes, je précise d'abord intellectuelles, se mettent comme nous, les quelques-unes là, nous le faisons, elles se mettent ensemble ou elles se lèvent debout pour défendre la cause au moins des voisines qui sont à côté illettrées. Moi, je pense que ça peut aller, hein? On peut avancer. Mais si toi, tu dis que non, ce n'est pas ton problème parce qu'à n'importe quel moment, tu as tel diplôme, on peut t'appeler, on peut te nommer et toi, tu es sorti, tu t'en fous des autres. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Moi, j'ai opté à un certain moment, il y avait la nomination devant moi posée. On va te nommer tel, tu fais ceci, on va te faire cela. J'ai dit, bah, écoutez, moi, je pense qu'au sein du conseil, je défends mieux la cause de la femme. Mieux que si je suis nommée. Si je suis nommée, qu'est-ce que je peux faire? Rien que de mettre, puisque c'est un poste qu'on m'a donné avec caution, bien sûr. Donc, ici, j'ai ma voix qui porte et je peux l'utiliser pour défendre la cause de la femme. Et ainsi, dans les groupements, les réseaux, les fédérations, nous utilisons ces canaux-là pour sensibiliser les femmes, non seulement les sensibiliser, amener aussi les partenaires à les aider et sur le plan tant et technique que financier.
Certaines femmes choisissent de ne pas se représenter parce qu'elles sont déçues. Plusieurs d'entre elles nous ont confié leur déception en préparant ce forum. D'autres préfèrent s'engager sur d'autres fronts comme la vie économique. C'est notamment le cas des femmes qui n'ont pas été à l'école, plus à l'aise sur le champ des affaires. D'autres parce que le parti leur complique trop la tâche ou leur préfèrent une autre femme, plus docile, donc plus manipulable. En tout cas, la plupart des femmes ne font qu'un mandat. Quel est votre avis, madame?
Même la charte des partis politiques est taillée. Lorsque vous bataillez et qu'à la fin, c'est une autre personne qui récolte les fruits. Le combat ne vaut pas la peine d'être mené. Ce sont des listes où c'est le parti qui est voté. Ce n'est pas votre personne. Donc, on a voté Lumana. On a voté MNSD. Donc, c'est MNSD qui va choisir son candidat en fin de compte. Ce n'est pas en faveur des femmes. Les partis au Niger, ce sont les hommes. Hein. J'ai dit chapeau aux deux femmes qui ont créé des partis. Elles ont fait des efforts énormes. Elles ont dépensé, elles se sont investies. Mais parfois, on les appelle même dès là, parmi les hommes, pour les minimiser. Et pour que les femmes soient mieux positionnées au sein des partis, il faut qu'elles adhèrent aux instances dirigeantes des partis. Qu'on ait au sein, au bureau, dans les bureaux des partis, une femme secrétaire. Une femme vice-présidente, là, ça veut dire que les femmes sont directement impliquées et au plus haut niveau du parti, des bureaux nationaux. Là, elle va parler au nom des femmes. Elle sera soutenue par les femmes. Elle va avoir la vraie information. L'information est primordiale dans chaque activité de la vie. Être au sein du parti, au sein du bureau, c'est-à-dire c'est être, avoir l'information à la source. Là, vous avez les moyens de réagir. D'agir. Mais lorsque on vous rapporte l'information, elle est toujours déformée. Et vous n'avez pas les moyens de réagir sur le champ. La politique des partis politiques au Niger, c'est les choses se font au jour le jour. Hein, et c'est entre les mains d'un noyau. Donc la femme ne peut pas progresser dans un tel contexte. C'est difficile. Parce que cette femme-là, elle doit travailler pour les autres femmes. Mais encore faut-il qu'elle ait les capacités de le faire. Ces femmes-là sont découragées parce que quand tu mènes une activité, tu as certainement un objectif. Et le temps, c'est précieux. Moi, je dis toujours que le temps, c'est ma vie. Quand tu fais un programme sur 4 ans, 5 ans, et qu'au bout, le résultat est négatif, tu vois bien que ça ne vaut pas la peine de recommencer cette expérience-là. Parce que on cherche chacun à atteindre certains résultats. Et si tu n'atteins pas les résultats, tu te rends compte que tu n'as pas les moyens de ta politique, mais tu ne vas pas recommencer encore parce que c'est perdre ton temps. Il vaut mieux aller autrement. Et le problème entre nous, les femmes, c'est qu'il y a dissension entre les femmes lettrées et les femmes illettrées. La confiance n'est pas toujours présente, n'est-ce pas? Parce que la femme lettrée a des visions autres que la femme illettrée. La femme illettrée, elle, c'est la femme qui est là, qui cherche à satisfaire ses premiers besoins. La femme lettrée, elle a d'autres ambitions. C'est tout un travail qu'il faut faire pour créer la confiance entre ces deux groupes-là. Et les femmes illettrées ont toujours l'impression que ces femmes lettrées-là, elles vont nous tromper. Elles ne font pas notre affaire. Et quand il y a la confiance, on ne peut pas créer quelque chose ensemble.
D'accord.
C'est difficile.
Merci beaucoup. D'après une étude sur le leadership des femmes menée par CARE en 2014, la représentation des femmes dans les conseils municipaux a connu une baisse de 2004 à 2011, date des dernières élections locales à ce jour, puisque les élections de 2016 ont été reportées. En effet, en 2004, sur les 3747 conseillers élus, 671 sont des femmes, soit 17,9%. En 2011, sur les 4693 conseillers élus, 630 sont des femmes, soit un taux de 13,4%. Alors que le nombre de conseillers augmente de 25%, on compte 41 conseillères en moins. Il y a aussi des disparités régionales, semble-t-il. D'après une étude du NDI publiée en 2011 sur la participation politique des femmes, Dosso et Tillabéri n'ont pas été touchés par le recul des femmes élues entre 2004 et 2011, contrairement à Maradi, Tawa et Zander, pourtant région très peuplée. En ce jour, certains conseils municipaux ne comptent aucune femme, soit parce que la loi sur le quota n'est pas respectée, soit parce qu'aucun parti ne compte plus de 3 élus. Plus de 1000 femmes ont été formées en vue des élections de 2016, finalement reportées. Dans ce contexte, et quels sont les pronostics pour l'avenir, Madame Issa Ramot Kounti?
Nous, à Tillabéri, effectivement, on dit que nous ne sommes pas touchés, mais en réalité, quand on se donne la peine de vérifier les vrais chiffres, on est touché parce que le nombre de conseillers a baissé. Mais ça a été un peu compensé par les 6 conseillers régionaux. Vous voyez? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la femme doit faire? Parce que nous avons choisi de lutter. Et cette lutte-là, on ne peut pas la faire aujourd'hui et baisser les bras pour dire que, ah non, moi je vais laisser tomber, vraiment je suis fatiguée. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est les générations futures qui vont récolter les fruits. Donc, ce que moi je demande à la femme, il faut que nous soyons des femmes intègres, des femmes déterminées, des femmes assidues. Des femmes qui savent exactement qu'est-ce qu'elles veulent. C'est important. Parce que si aujourd'hui j'ai un ennemi en face, mais il va tout faire tous les jours pour me décourager. Et si je refuse de me décourager, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me coller la paix. Et maintenant, je vais tracer mon chemin parce que j'ai un objectif à atteindre. Voilà les perspectives que moi je vois. Et La deuxième perspective, c'est que pour les générations futures, heureusement, il y a la scolarisation de la jeune fille. Parce que tout notre handicap, l'handicap des femmes, nos faiblesses, c'est l'analphabétisme, c'est la pauvreté, c'est le manque de confiance en nous-mêmes, c'est le manque de solidarité entre les femmes, c'est la non-prise en compte du poids démographique des femmes. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas aux instances de décision, comme elle vient de le dire. Et tant qu'on ne sera pas aux instances de prise de décision, en tout cas, on sera toujours à la traîne. Donc, c'est sur ça qu'il faut qu'on lutte. On doit lutter. Parce qu'au sein des partis politiques aussi, les choses sont en train de bouger. On n'a jamais vu quelque chose de stationnaire au monde. Les choses bougent. Donc, c'est à nous autres femmes, de savoir exactement ce qu'on veut et ce qu'on fait et où on va.
On peut retenir de ce forum que malgré leur détermination à aller de l'avant et à servir leur population, beaucoup de femmes élues ne souhaitent plus briller un second mandat. Le découragement l'emporte parfois. De nouvelles femmes émergent alors. Le vivier est grand à l'approche des élections locales, qui se présentent souvent comme un tremplin vers des fonctions plus élevées. Les prochaines élections communales et régionales seront à cet égard riches d'enseignements. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu d'aujourd'hui qui portait sur les femmes et la gouvernance locale, défis, expériences et perspectives. Nous étions avec Madame Issa Ramot Kuntie, ex-conseillère municipale de la commune rurale de Damana, Madame Hamma Safia, vice-maire de Saï, qu'on a joint au téléphone, Madame Gambo, conseillère régionale, et Madame Boubacar Sibitou, conseillère de la commune Niamey 1. Merci à vous, chers invités, d'avoir honoré l'invitation du studio Kalangu. Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, de rester fidèles au programme du studio Kalangu qui vous parle viennent à travers nos 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À la présentation, Rukayatou Abdrahmane, à la technique Issa Lawali. Merci et au revoir.